Donc, dans ce chapitre 10, vous voyez l'apôtre Paul répondre d'une façon énergique à ceux qui, à Corinthe, portaient des accusations contre son ministère, cherchaient à miner l'autorité que Paul pouvait avoir sur les âmes qui formaient l'église de Corinthe. Ayant étudié hier les chapitres 8 et 9 de notre épître, nous avons souligné à quel point le Seigneur désire nous voir disposer des biens matériels qu'il nous donne pour subvenir aux besoins des frères et des sœurs et qui sont dans le besoin. Je dis d'abord des frères et des sœurs qui sont dans le besoin, donc des croyants, parce que selon l'enseignement que Paul donne aussi aux Galates, chapitre 6, verset 10, il est dit qu'il faut faire du bien à tous. On peut aussi soutenir des œuvres charitables sans qu'elles soient nécessairement chrétiennes, mais notre premier devoir, c'est de soutenir nos frères dans la foi, ce qui n'empêchera pas que nos cœurs soient ouverts pour toute œuvre vraiment humanitaire. Mais notre première responsabilité, c'est d'abord de nous souvenir des besoins de nos frères en la foi. Galates 6, verset 10. Oui, faites du bien à tous, mais principalement à ceux qui font partie de la maison de la foi. Il y a donc des priorités. Et si le Seigneur ne nous demande pas une générosité dépassant nos moyens, nous voudrions préciser ce matin, avant d'entrer même dans notre méditation de ce jour, que l'offrande de nos biens au Seigneur devrait être une des premières choses que nous avons à faire. Parce que je ne voudrais pas que vous puissiez interpréter d'une façon erronée ce que nous avons dit hier. Et je vous citerai un texte qui peut rétablir l'équilibre dans Malachie au chapitre 3e. Il est dit ceci, verset 8e, un homme tromperait-il Dieu? Car vous me trompez. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous savez que en Israël, la coutume et l'ordre du Seigneur était de donner la dîme sous la loi, la dîme de tout ce que l'on recevait ou de tout ce que le Seigneur nous donnait. Nous ne sommes plus sous la loi, cela est vrai, mais la dîme reste quand même une indication qui peut nous être précieuse. Et quelquefois, le Seigneur peut nous conduire à donner plus que la dîme. D'autres fois, peut-être moins, selon les circonstances, nous devons avoir affaire vraiment au Seigneur dans cette distribution de nos biens. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez, la nation tout entière. Et alors, si vous voulez un changement, bien verset 10, apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Mais quand il est parlé de la dîme, c'est vraiment de la dîme de ce que nous possédons. Il n'est pas question là d'un emprunt comme nous l'avons souligné hier. Mais ce que je voulais indiquer, parce que peut-être que je ne l'ai pas assez fait hier, la part du Seigneur devrait passer en premier lieu, et si nous devons nous restreindre, c'est sur les autres choses que nous devons savoir faire des économies ou nous priver volontairement. Et je le répète encore une fois, dans notre manière de donner, nous devons avoir toujours l'exemple du Seigneur sous les yeux. Lui qui était riche, il s'est fait pauvre pour que, par sa pauvreté, nous soyons enrichis. Alors, après cette mise au point, nous passons au chapitre 10. Paul, ayant pu ouvrir son cœur au sujet de cette collecte en faveur des croyants pauvres de Palestine, revient donc au chapitre 10, à son ministère personnel qu'il s'est attaqué par plusieurs personnes dans l'église de Corinthe. Et la manière dont il défend son ministère et veut le justifier est vraiment pleine d'enseignement pour nous aujourd'hui. Dans la première partie, du verset 1 au verset 6, Paul supplie ses adversaires de ne pas l'obliger à faire usage envers eux de son autorité apostolique. Dans la deuxième partie, qui va du verset 7 au verset 18, Paul se justifie de s'être attribué une gloire qui ne lui appartiendrait pas. Depuis le commencement de ce chapitre 10, comme vous le verrez, jusqu'au chapitre 13, verset 10, l'apôtre s'adresse exclusivement aux adversaires de son ministère, soit qu'ils fussent de faux docteurs qui cherchaient à affaiblir son influence pour établir la leur, soit qu'une partie encore des membres de l'Église, moins convaincus que d'autres par sa première lettre, continuât à s'opposer à lui. Et dans cette espèce de polémique, il y a deux choses qui nous sont particulièrement dévoilées. La première, c'est l'état des églises primitives. Et la deuxième, et c'est peut-être ce qui est le plus important pour nous, nous trouvons en Paul un vrai modèle de la manière dont un serviteur doit se comporter lorsqu'il s'agit de combattre pour la vérité et pour la justification d'un saint ministère qui serait méconnu et accusé. Je prends d'abord ce qui nous est révélé de l'état de l'Église primitive, ou des Églises primitives. On a, nous, souvent une idée un peu fausse de la situation des Églises primitives. On pense toujours que c'était l'idéal et qu'il n'y avait pas de difficultés comme nous en voyons aujourd'hui dans toutes nos communautés. On en reste un peu au chapitre 4 des Actes, au verset 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Alors, si vous lisez le premier chapitre de la première épître aux Corinthiens, vous voyez qu'il n'en était pas ainsi. Nul ne disait que ses propres biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Et on a l'exemple d'un certain Joseph, surnommé par les apôtres Barnabas, ce qui signifie fils d'exhortation, lévite originaire de Chypre, qui vend un champ qu'il possédait et qui en apporte l'argent et le dépose aux pieds des apôtres. Donc on a toujours un peu cette idée d'une église idéale au début du christianisme. Et on a aussi un verset dans le chapitre deuxième de ce livre des Actes qui nous relate les fruits de la prédication de Pierre, verset 42, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Mais on se rend compte, même quand on lit le livre des Actes, que bien vite, il y a eu du trouble. Dès le chapitre 5, vous voyez simplement un homme qui a fait profession de foi et qui s'appelle Ananias, qui veut imiter la foi de qui ? La foi de Barnabas. Et il n'a pas cette mesure de foi. Alors il veut dépasser sa mesure. C'est simplement parce qu'il a l'esprit d'imitation maintenant. Ça l'a touché, ainsi que sa femme, de voir qu'un homme a pu vendre son champ. Et on a porté le prix aux pieds des apôtres. Alors, il veut faire la même chose, parce que ça, c'est bien. Mais ils n'ont pas la même foi. Dieu ne leur demandait pas de vendre ce champ. Dieu ne demande pas à tous la même chose. Et alors, ils gardent une partie du prix de sa vente. Au fond, il fait une dissimulation. Garder une partie du prix de sa vente, il pouvait le faire. Mais ce qui a introduit le trouble, c'est qu'il a apporté la somme d'argent en prétendant que c'était le prix complet du champ. Alors, c'est là que l'apôtre Pierre intervient avec son autorité apostolique et lui dit, ayant eu ce discernement, comment est-ce que tu as pu mentir ainsi au Saint-Esprit ? Au fond, Ananias a fait un geste qui ne lui était pas demandé, et ce geste, qui paraît justement être un geste de piété, a été pour lui une occasion de mort. Vous savez comment ? Il est tombé mort aux pieds de l'apôtre. Donc, vous voyez que quand nous faisons un don, il nous faut vraiment avoir affaire avec le Seigneur. Ensuite, sa femme donc, qui est de connivence avec son mari, confirme le mensonge de son mari et meurt elle aussi. Ainsi, le mal était retranché immédiatement dans l'Église primitive. Et cela avait mis de la crainte dans tous ceux qui faisaient partie de la communauté. Je ne m'allongerai pas sur ce sujet, mais dans le chapitre suivant, nous voyons qu'il y a eu des négligences dans le service qui était fait aux tables, puisqu'on essayait de secourir en particulier les veuves, on a commencé à faire des différences entre les veuves qui étaient du pays et celles qui venaient de la diaspora. Et là aussi, cela a donné du trouble et des murmures. Et c'est pour cela que les apôtres ont institué les diacres. Des murmures, il y en avait aussi dans l'Église primitive. Plus tard, nous voyons que l'apôtre Pierre lui-même a été l'objet de critiques et de reproches de la part de ses propres frères de Jérusalem parce qu'il était allé apporter l'évangile chez les païens. On l'a jugé. Il y avait donc aussi dans l'Église primitive un esprit de jugement. Puis au chapitre 15, vous voyez qu'il y a eu des disputes doctrinales qui risquaient de détruire l'unité de l'Église d'Antioche. Sous l'influence de certains croyants au Christ, mais qui étaient encore empreints de judaïsme, ils voulaient obliger les nouveaux croyants du paganisme à être circoncis. Et c'est ce qui a donné lieu à ce premier concile de Jérusalem où la question a été tranchée, où les apôtres ont écrit une lettre en montrant ce qui était nécessaire pour un croyant et que la circoncision n'était pas une obligation, comme sous la loi mosaïque. Et enfin, on voit même qu'il y a pu avoir conflit entre deux serviteurs de Dieu et qui étaient très unis, Paul et Barnabas, au sujet justement d'un jeune homme qui avait voulu les suivre et servir le Seigneur et qui devant les tribulations que les apôtres rencontraient s'était découragé et était retourné à la maison. Plus tard, ce jeune homme qui s'appelait Marc a demandé d'être repris au service et Barnabas était d'accord mais Paul trouvait que c'était trop risqué et à cause de leur divergence de vue entre ces deux serviteurs de Dieu qui étaient pourtant bien unis, il y a eu séparation. Paul est allé avec Silas et Barnabas a continué d'annoncer l'évangile mais avec Marc. Donc ce que nous constatons c'est que l'état des églises primitives n'était pas un état pleinement idéal. Partout où il y a des hommes, eh bien, on voit des manifestations du cœur de l'homme, même dans l'église. Et on a souvent dit que si vous cherchiez une église parfaite, dès l'instant où vous vous y rendrez, elle ne sera plus parfaite. N'est-ce pas? Parce que vous y serez. Et cela est vrai. Mais dans l'église de Corinthe, il y avait donc des divisions, il y avait des influences d'hommes contre d'autres hommes, et pourtant, ils étaient tous, semble-t-il, des serviteurs de Dieu, jusqu'à ce que l'apôtre Paul puisse en démasquer quelques-uns, qui étaient de faux apôtres, qui étaient vraiment des adversaires et qui s'étaient introduits dans le troupeau et qui y faisaient le travail de ces loups redoutables qui amenaient la division. Alors, comment est-ce que nous allons lutter contre ces adversaires même, contre ceux qui peuvent être, mais on ne le sait pas encore tout à fait, de faux apôtres. Comment les combattre? alors qu'il cherche à détruire le ministère de véritable envoyé de Dieu. Alors, vous avez cela dans ce chapitre 10. La prière et la supplication de Paul d'abord. Je vous prie, par la douceur et la bonté du Christ, moi humble d'apparence, quand je suis au milieu de vous, et plein de hardiesse à votre égard quand je suis éloigné. On accuse Paul d'avoir de la hardiesse quand il est absent. Alors Paul dit, eh bien, je vous en prie, que je ne sois pas obligé d'user de cette hardiesse que vous dites que je possède quand je suis absent, bien que je ne sois pas obligé d'user de cette hardiesse quand je serai vers vous. Puis on m'accuse de marcher selon la chair, ce qui signifie ici d'agir avec passion ou par des motifs humains, terrestres, et non selon l'Esprit de Dieu. Mais, dit-il, les armes que nous employons, loin d'être charnelles, elles sont vraiment puissantes par Dieu et selon Dieu. Et quelles sont ces armes? C'est la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et Paul souligne que c'est uniquement par ces armes qu'il peut détruire toutes les oppositions et amener les âmes à l'obéissance du Christ. Amener les pensées des hommes à l'obéissance du Christ. De ses armes, Paul laisse entendre qu'il en fera usage, s'il le faut, pour punir toute désobéissance. Et les raisonnements dont il parle au verset 5 sont les conclusions de la logique, de la raison humaine. Et Paul les compare à une hauteur, à une tour, à une forteresse au verset 4, où dans son orgueilleuse révolte, l'homme prétend se retrancher contre la connaissance de Dieu, c'est-à-dire la vraie science de Dieu, sa vérité et sa volonté. Mais penchons-nous encore plus près de ces textes. Je vous prie par la douceur et la bonté du Christ. Est-ce que c'est la douceur de Paul? Non. Pour lui, Paul est mort. Qu'est-ce qui vit en lui? Jésus. Et si Jésus vit en lui, c'est la douceur de Jésus qui va se manifester. Et qu'est-ce que c'est que la douceur? Littéralement, dans le sens biblique, la douceur, c'est les caractères d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. C'est cela la douceur. Les caractères d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Que votre douceur soit connu de tous les hommes, le Seigneur est proche. Puis maintenant, la débonnaireté ou la bonté ou l'humilité du Christ, c'est ce qu'il a caractérisé sur la terre. Il était réellement doux et humble de cœur. Et il a manifesté sa bonté en allant de lieu en lieu, faisant du bien. Moi, humble d'apparence. C'est ce que ses adversaires disaient. Quand il est au milieu de nous, mais regardez-le, souvenez-vous de ce qu'il est. Paul n'avait certainement pas la stature d'un Saül, le roi Saül, qui était très grand, il avait une tête de plus que les autres. Alors on jugeait Paul selon les apparences, et nous dit même qu'il avait une écharde de sorte que, comme il le soulignera plus loin, sa présence personnelle, eh bien, était plutôt méprisable, et ce n'était pas un grand orateur comme Apollos, qui lui avait succédé à Corinthe, et qui avait certainement, sans le vouloir, séduit par son éloquence, de sorte qu'il y a tout un nombre de personnes qui avaient formé un groupe qui mettait toujours en avant Apollos à cause de son éloquence et qui le comparait à l'apôtre Paul. Mais chacun avait son don particulier. Paul ne prétendait pas être un Apollos, mais Apollos non plus ne prétendait pas être un Paul. Il y en a d'autres qui étaient venus de Jérusalem qui se réclamaient de l'apôtre Pierre. Mais ce n'était pas l'apôtre Pierre, certainement, qui les avait envoyés. Et puis, nous avons vu hier par quelles leçons l'apôtre Pierre avait dû passer. Si quelqu'un avait été appelé, si quelqu'un avait une autorité, c'était bien l'apôtre Pierre. Mais il devait toujours se souvenir de ce qui lui était arrivé. Tant qu'il était sûr de lui-même, eh bien, qu'est-ce qu'il risquait? Est-ce que c'est la confession qu'il avait faite, qu'il a gardée à l'heure de la tentation? Est-ce que c'est les dons que le Seigneur lui avait donnés qui l'ont gardé? Non. Il y avait une expérience qu'il n'avait pas encore faite, l'apôtre Pierre. Il avait renoncé à tout et il l'avait dit. Seigneur, que nous arrivera-t-il? Nous avons tout quitté, nous avons renoncé à tout. Mais, comme je répète souvent, qu'est-ce qui manquait à Pierre? Le renoncement à soi-même. Il ne s'était pas quitté. Il croyait que par lui-même, que par sa propre force, il pourrait vaincre. Alors ne regardons pas à l'apparence. Ne jugeons pas non plus quelqu'un d'après les dons qu'il peut avoir. Nous pouvons reconnaître les dons, mais n'attribuons jamais à l'homme le don qu'il possède. Qu'as-tu que tu n'as reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Et si même vous avez été employé par Dieu, bien vous n'êtes qu'un instrument. Après que vous aurez fait tout ce que je vous ai dit de faire, enseignez Jésus, dites quoi? Je suis un serviteur inutile. C'est cela que nous devons comprendre. Si le Seigneur nous emploie dans son service, c'est une grâce. C'est une grâce qu'il nous fait. Alors je vous prie, lorsque je serai présent, que je n'aie pas à recourir avec assurance à cette hardiesse. Cette hardiesse que vous voyez dans mes lettres, puisque vous dites, ces lettres sont graves et fortes. Oui, quand il écrit, disaient ses adversaires, on ne peut pas contester que c'est très fort ce qu'il dit. Mais souvenez-vous que quand il est là, eh bien, sa parole n'est pas si convaincante que cela. Mais l'apôtre Paul avait compris qu'il ne devait pas essayer de convaincre ses auditeurs par des moyens qui finalement seraient charnels, mais qu'il leur présenterait uniquement Jésus-Christ crucifié. Il s'abstiendrait même de faire des miracles pour que la foi de ceux qui l'écoutaient ne repose pas sur l'homme, mais repose sur la parole de Dieu seul. Maintenant, vous nous accusez de marcher selon la chair, donc selon des principes humains. Bien, si Si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pourtant pas selon la chair. Les armes que nous employons ne sont pas des raisonnements humains que nous opposons aux vôtres ou à ces docteurs qui essayaient de faire des disciples pour fragmenter au fond cette église de Corinthe, pour créer des partis et finalement les opposer. Si ces armes sont puissantes, c'est qu'elles le sont par la vertu de Dieu. Et ces armes, l'apôtre Paul le souligne à plusieurs reprises, c'était la parole de Dieu à laquelle il n'ajoutait rien. La parole de Dieu est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est qui donnait une action à cette parole. Et c'est par la parole, et non pas par nos raisonnements, parce qu'on peut discuter avec quelqu'un, on peut écouter ses raisonnements. Il s'enferme dans une véritable forteresse. Il a ses idées à lui, ou les idées qu'il a reçues d'autres groupes. Et là, il s'entoure d'une véritable muraille. Et il est sûr, là, d'être dans la vérité. Eh bien, comment détruire ces raisonnements? C'est uniquement par la parole de Dieu. En mettant les âmes en face de la parole de Dieu et en priant de toute notre force pour que le Seigneur amène nos pensées ou les pensées des autres captives à l'obéissance du Christ. Parce que ce qui compte, c'est que nous obéissions. La vraie foi, c'est une obéissance. Et pour que nous obéissions, il faut vraiment que notre pensée soit captivée par le Christ. Et non pas par les raisonnements humains ou par les idées du jour. La foi est une obéissance. Et cette obéissance concerne d'abord nos pensées. Parce que nos actes ne sont que le prolongement visible de nos pensées. Et nos paroles n'en sont que le prolongement audible. Mais tout est là, dans la pensée. C'est pourquoi nous devons demander au Seigneur de veiller au seuil de nos pensées. Cette pensée, est-ce qu'elle est vraiment biblique? Alors nous devons rechercher dans l'Écriture. Mais la plupart des gens ont une pensée d'abord dans le cœur. Et puis, qu'est-ce qu'ils cherchent dans la Bible? La confirmation de leur pensée. Ils cherchent des textes qui confirment leur pensée. Or, c'est pas cela. C'est aborder l'Écriture en renonçant à nos pensées personnelles et laisser l'Écriture former nos pensées. Voilà la manière dont Paul combattait. Et alors, si réellement il n'y avait pas soumission à cette parole, bien, il serait prêt aussi, verset 6, à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète, parce que il fait confiance. Il fait confiance que, au fond, les Corinthiens accepteront de soumettre leurs pensées à l'obéissance du Christ. Mais s'il reste encore quelques-uns qui désobéissent, alors il usera de son autorité pour les retrancher. Mais il espère d'abord que la douceur qu'il emploie, la bonté du Christ les amènera à se soumettre à ce joug de Jésus qui est aisé, à ce fardeau qui est léger. Maintenant, la deuxième partie, versets 7 à 18. Dans ces versets, Paul montre qu'il ne s'est attribué, il ne s'est pas attribué une gloire qui ne lui appartient pas. Il dit, mais vous jugez selon l'apparence. Est-ce qu'ils étaient dans la pensée de Dieu en jugeant selon l'apparence? C'est ce que vous lisez dans l'Ancien Testament. Dieu ne regarde pas, voilà pourquoi on revient toujours à l'Ancien Testament, c'est l'enseignement que Dieu donne à un prophète, Samuel, qui lui aussi était porté à regarder à l'apparence lors du choix qu'il devait faire pour remplacer Saül. Dans la maison d'Isaïe, chapitre 16 du premier livre de Samuel, verset 6, quand on fait défiler devant Samuel les enfants d'Isaïe, lorsqu'ils entrèrent, verset 6 du chapitre 16, il se dit, voyant Eliab, certainement c'est lui loin de l'Éternel. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son apparence, à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et s'il y a des gens qui auraient dû se souvenir de cela, ce sont les Corinthiens, parce que d'où venait-il? Prenez le chapitre premier de la première lettre de Paul aux Corinthiens. Il leur dit au verset 26 du chapitre premier, « Considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a pas beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faible du monde pour confondre les forces. Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel de par Dieu a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption, afin que, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. S'il y a un peu de sagesse en nous, c'est quelle sagesse? La sagesse du Seigneur. S'il y a une justice en nous, c'est la justice de qui? La justice du Seigneur. De sorte que l'homme ne peut rien s'attribuer. S'il y a de la douceur, c'est la douceur du Seigneur. S'il y a de l'amour, c'est l'amour du Seigneur. S'il y a de l'humilité, c'est l'humilité du Seigneur. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Alors Paul continue, si d'autres se glorifient d'être à Christ, nous le sommes aussi. Et même si Paul se glorifiait de son autorité apostolique, ben il savait qu'il n'en serait pas confus. Mais il n'a pas voulu intimider les Corinthiens par ses lettres, que ses adversaires reconnaissaient, comme je l'ai déjà dit, comme étant graves, sévères et fortes, tandis que sa parole leur semblait faible et sa présence méprisable. Mais Paul, ce qu'il veut, c'est que tous sachent que tel que lui et ses collaborateurs sont par lettre, tel aussi ils sont dans leurs actes quand ils ont le privilège d'être présents parmi eux. Voyez, vous regardez à l'apparence, si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Et quand même je me glorifierai un peu trop de l'autorité que le Seigneur nous a donnée, parce qu'il a été appelé apôtre. Cette autorité, il l'a donnée pour quoi ? Pour leur édification et non pour leur destruction. Alors il ne saurait en avoir honte. Afin que je ne paraisse pas vouloir vous intimider par mes lettres. Car, dit-on, ces lettres sont sévères et fortes, mais présent en personne, il est faible et sa parole méprisable. Que celui qui parle de la sorte considère que tel nous sommes en parole, dans nos lettres, étant absent, tel nous sommes aussi dans nos actes étant présents. Nous n'osons pas nous égaler ou nous comparer à quelques-uns de ceux qui se recommandent eux-mêmes. C'était le cas de ces hommes à Corinthe. Mais en se mesurant à leur propre mesure, en se comparant à eux-mêmes, ils manquent d'intelligence. Pour nous, nous ne voulons pas nous glorifier hors de toute mesure. Nous prendrons au contraire pour mesure les limites du partage que Dieu nous a assigné de manière à vous faire venir jusqu'à vous. C'est vrai, ce n'est pas Paul qui avait décidé d'aller à Corinthe. Le Seigneur l'avait envoyé. Nous ne dépassons point nos limites comme si nous n'étions pas venus jusqu'à vous. Car c'est jusqu'à vous que nous sommes arrivés. Et ils sont arrivés avec quoi ? Avec l'évangile de Christ, ça, ils ne peuvent pas le refuser, cet argument. Ce n'est pas hors de toute mesure. Ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions. Parce que ceux qui étaient venus après lui, au fond, ils se glorifiaient de quoi ? Des travaux d'autrui. C'était pas eux qui avaient commencé l'œuvre. Et ceux qui viennent diviser, souvent, c'est des gens qui n'ont rien eu à faire dans les débuts de l'œuvre, mais qui veulent profiter de l'œuvre qui a déjà été accomplie. Ce n'est pas hors de toute mesure, ce n'est pas des travaux d'autrui que nous nous glorifions, mais c'est dans l'espérance que votre foi augmente et de grandir encore davantage parmi vous, selon les limites qui nous sont assignées. Donc il reconnaît bien, lui, qu'il a des limites. Il ne s'est pas opposé à ce qu'Apollos vienne pour continuer le travail. Il a pensé même que ce serait une bonne chose. Que des gens se réclamant de Pierre soient venus aussi, bien ça aurait été réjouissant s'ils apportaient la parole et les expériences de Pierre. Mais non pour diviser. Et ce que Paul sait, c'est qu'il annoncera aussi l'évangile au-delà de chez eux, sans nous glorifier de ce qui a été fait dans les limites assignées par les autres. Il cherchait toujours à aller où l'évangile n'avait pas encore été annoncé pour qu'on ne puisse pas dire qu'il allait sur le terrain d'autrui. Que celui qui se glorifie dans le Seigneur, car ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande. Donc, la mesure de Paul et des siens leur est assignée par Dieu qui les a fait parvenir à Corinthe avec l'Évangile. Sans se glorifier des travaux des autres, il espère, suivant la mesure que Dieu lui a donnée, aller porter l'Évangile plus loin. Et le seul moyen de se glorifier et d'être approuvé, c'est donc d'être recommandé par le Seigneur. Alors, on en vient maintenant à cette question. Quelle est la seule autorité d'un prédicateur aujourd'hui ? Ben, premièrement, c'est de revêtir constamment les caractères du Christ. Ces caractères, je l'ai dit, c'était essentiellement la douceur, les caractères d'un homme qui n'insiste pas sur ses droits. Est-ce que le Seigneur a insisté sur ses droits? Jamais. Est-ce qu'il s'est enorgueilli de quelque chose? À qui attribuait-il sa parole? Au Père. Ma doctrine ne vient pas de moi. Je dis ce que j'ai entendu dire par le Père. Donc il restait dans cette humilité. Et notre seule autorité aussi, c'est de ne pas dépasser notre mesure. Et là, je vous lis un texte qui est très éclairant. Chapitre 12 des Corinthiens, des Romains, de l'Épître aux Romains, verset 3. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Nous n'avons pas tous reçu la même mesure, car comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. C'est-à-dire qu'on peut contrôler le don de prophétie. Il faut qu'il soit conforme, que ce qui est dit soit conforme à l'ensemble des Écritures. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Que celui qui exhorte à l'exhortation. C'est cela l'autorité qu'un homme peut avoir. Regardez, l'autorité de Christ, eh bien, il l'avait parce que elle venait de Dieu et le monde constatait qu'il ne parlait pas comme les scribes. Les scribes enseignaient des doctrines qui n'étaient pas toujours erronées. L'essentiel de la doctrine des pharisiens était semblable à la doctrine qu'annonçait Jésus. Un docteur de la loi résumait la doctrine par deux commandements et le Seigneur lui-même n'employait pas d'autres commandements pour résumer la doctrine. Mais on disait que Jésus avait de l'autorité pour quelle raison? Sa vie était conforme à ce qu'il disait. Et il ne dépassait pas sa mesure. Quand on lui a dit qu'il devait demander à telle personne de partager un héritage, qu'est-ce qu'il a dit? Qui m'a établi juge sur vous? Il n'a pas voulu entrer dans cette question. N'est-ce pas? Il y a des choses où nous n'avons pas à entrer. Il y a des hommes pour cela, pour le faire, et qui ont autorité pour le faire. Même Jésus, en tant qu'homme, a reconnu qu'il n'était pas établi pour faire le partage des héritages dans les familles. Et une autre chose qui nous revêt de cette autorité, c'est de considérer toujours notre prochain comme supérieur à nous-mêmes. Chapitre 2 des Philippiens, verset 4. Qu'il y ait en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. C'est-à-dire, regardez aussi ce prochain comme supérieur à soi-même. On peut dire que le Seigneur est allé jusque-là dans son humanité. Parce que pour qui est-il mort? Pour des pécheurs. Mais au fond, il a estimé leur vie supérieure à sa propre vie. Et il a donné sa vie pour eux. ne faites rien, verset 3 du chapitre 2, par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer son propre intérêt, considère celui des autres. Et qu'est-ce que nous avons à prêcher ? La parole de Dieu. Avec quoi devons-nous combattre ? Avec les armes de Dieu. Et ce que nous avons à faire, c'est de donner toute gloire à Dieu seul. Et de savoir que si nous avons une capacité quelconque, cette capacité vient de Dieu. Demain, nous pourrons développer ces choses. Seigneur, notre Dieu, nous voulons te demander que toi-même, dans cette journée, tu nous revêtes de cette autorité qui vient de toi, afin que tout ce que nous pouvons dire ne soit jamais attribué à nous-mêmes, mais vienne de ton propre cœur, et que ce que nous enseignons, nous soyons amenés au sein même de toute notre faiblesse, à le vivre chaque jour de notre vie pour ta seule gloire. Amen.